La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local,
c'est un mélange, la collective.
C'est des interviews,
de l'actualité,
des chroniques, des reportages,
de la musique.
C'est divers et c'est varié.
La Collective, c'est ta voix.
C'est ma voix,
c'est nos voix. C'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Saint-Ferréol.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Saint-Ferréol dans La Collective, où nous vous présentons aujourd'hui une émission spéciale consacrée à la Corée du Sud. Je m'appelle Célia.
Et moi, c'est Arthur.
On vous emmène pour un véritable voyage sonore entre histoire, culture, témoignages et découvertes inattendues.
On va explorer la Corée sous un angle large, vivant, parfois surprenant, et on commence tout de suite en posant les bases, comprendre le pays dont on parle. On ouvre cette émission avec un point sur l'histoire et la géographie de la Corée du Sud, parce que pour saisir ce qui fait la force et la singularité du pays, il faut d'abord comprendre son passé, son territoire et les événements qui l'ont façonné.
On écoute cette première chronique et on se retrouve juste après.
Pour ceux qui se demandent toujours après plusieurs années où se trouve la Corée du Sud, eh bien, elle se trouve en Asie entre le Japon et la Chine. Elle occupe la partie sud de la péninsule coréenne et elle est séparée du nord par la zone démilitarisée. Sa capitale est Séoul. Séoul est dit juste avant la capitale de la Corée du Sud et elle est la plus grande ville du pays. Elle mélange gratte-ciel futuriste et temple ancien. Ses quartiers les plus connus sont Gangnam, un quartier riche et moderne, Hongdae, quartier étudiant artistique et musical, et Myeongdong, le paradis du shopping. Séoul est le centre mondial de la K-pop et un des plus grands centres technologiques. Elle possède un métro gigantesque, propre et silencieux, climatisé et avec le Wi-Fi, s'il vous plaît. Des villes en Corée, il y en a plein. Voici une petite sélection des plus connues. Busan, située dans le sud, c'est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud. Elle est connue pour ses plages, ses montagnes et son port. Elle propose une ambiance vacancière, ce qui en fait une destination touristique parfaite. Deux de ses attractions touristiques connues sont le marché de Jagalchi, un énorme marché aux poissons, et le festival international du film de Busan, l'un des plus gros d'Asie. Daegu est au centre du pays. Elle est réputée pour son industrie textile et son savoir-faire traditionnel. Elle est surnommée la ville du four, pour son climat en été très chaud. C'est aussi une ville touristique parfaite pour parler de la vie quotidienne en Corée. En plus, il y a beaucoup de marchés traditionnels et de temples. Et enfin, Gyeongju. Même si ce n'est pas une des plus grandes villes, elle est quand même très intéressante. C'était l'ancienne capitale du royaume de Silla, qu'on en reparlera après. Elle est remplie de tumulus, c'est-à-dire des tombeaux royaux, de temples et de vestiges historiques. Le temple Bulguksa et la grotte Seokganam sont classés au patrimoine mondial humanitaire de l'UNESCO. La ville a une atmosphère traditionnelle et artisanale. La Corée a un climat continental, un hiver froid avec parfois de la neige dans le nord, un été chaud et humide à cause de la saison des pluies appelée mousson, et un printemps et automne doux avec beaucoup de soleil. Pour les paysages, la Corée est un assez petit pays, avec pourtant des paysages incroyablement variés. 70% du territoire contient des montagnes, ce qui crée un panorama hyper impressionnant, surtout dans les parcs nationaux comme celui de Seonaksam. Il y a aussi des grandes plaines côtières, des rizières, des villes entre mer et collines. Les côtes sont très découpées avec centaines d'îles, dont la plus connue est celle de Jeju, une île volcanique avec des plages, des falaises et des anciens cratères. Et enfin, les grandes villes évoquées précédemment. Revenons sur la zone démilitarisée. Pourquoi existe-t-elle ? Eh bien, passons maintenant à l'histoire. Après la guerre de Corée en 1935, le pays a été coupé en deux. Au nord, un pays communiste. Au sud, une démocratie. Pour éviter que les deux armées ne se retrouvent face à face, une zone spéciale a été tracée, la DMZ, une zone démilitarisée. C'est une bande de terre longue de 250 km et large de 4 km, traversant toute la péninsule coréenne. Son nom peut tromper, elle est démilitarisée à l'intérieur, mais extrêmement militarisée sur ses bords. C'est même une des frontières les plus surveillées du monde. Une anecdote touchante, après la guerre de Corée, un fils et son père se sont retrouvés séparés. Ils ont enfin pu se retrouver après 79 ans. Aujourd'hui encore, cette zone symbolise la division du pays. La nature y a repris ses droits, c'est un refuge pour la faune sauvage. Toujours après cette fameuse guerre de... Oui, la guerre de Corée ! Bravo ! La Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres. Elle faisait partie dans les années 60 des pays les moins avancés. Mais en quelques décennies, elle est devenue une puissance économique majeure. Aujourd'hui, elle se classe parmi les plus grandes économies du monde. Dans l'histoire de la Corée du Sud, il y a 5 grandes périodes culturelles. Les royaumes anciens jusqu'au 7e siècle, le royaume de Silla, évoqué plutôt du 7e au 10e siècle, la dynastie Gonyeon du 10e au 14e siècle, la dynastie Joseon du 14e au 19e siècle, et enfin l'époque moderne du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui.
Passons maintenant à quelques clichés bien connus sur la Corée du Sud. Comme toutes les cultures, la culture coréenne traîne avec elle son lot d'idées reçues. On en a choisi trois qui reviennent souvent et on va les démonter ensemble.
Premier cliché, tous les Coréens font de la chirurgie esthétique. Faux ! La Corée est effectivement réputée pour sa cosmétique et l'importance accordée à l'apparence, mais la chirurgie esthétique ne concerne qu'une partie de la population. Ce cliché vient surtout des médias et des célébrités qui y ont recours. Les pubs et les vidéos peuvent impressionner, mais ça ne veut pas dire que tout le monde passe sur la table.
Deuxième cliché. Corée du Sud égale K-pop. C'est vrai que la K-pop a beaucoup contribué à la popularité du pays en France, avec ses artistes charismatiques et ses titres entraînants. Mais comme chez nous, les Coréens écoutent de tout, et beaucoup ne sont pas fans de K-pop. En résumé, la K-pop pour la Corée, c'est comme la baguette pour la France. Un symbole, oui, mais ça ne résume pas tout un pays.
Troisième cliché, la langue coréenne est très difficile et ressemble au japonais ou au chinois. Encore faux! Elle nous paraît complexe, surtout parce que son alphabet est totalement différent du nôtre. Pourtant, le Hangul est considéré comme l'un des alphabets les plus logiques du monde. Quant au japonais et au chinois, ce sont des langues totalement distinctes, bien plus complexes que le coréen. On les associe souvent parce qu'on confond aussi les pays entre eux, mais il suffit de se renseigner un peu pour éviter cette erreur.
Maintenant que le décor est posé, on change complètement d'ambiance. On est allé dans la rue vous poser une question toute simple. Quand on vous dit « culture coréenne », qu'est-ce que cela vous évoque ?
Les réponses sont spontanées, parfois très précises, parfois inattendues, mais toujours sincères. On écoute.
Nous voilà au cœur du marché de Cré, à 9h du matin. Il y a pas mal de monde et il est temps de leur poser la fameuse question de ce qu'ils pensent de la Corée, et plus particulièrement de ce que ça leur évoque.
Si on vous dit culture coréenne, qu'est-ce que cela vous évoque ?
Moi, culture coréenne, pas grand-chose. Culture coréenne, je sais pas, moi, tout ce qui est au niveau de l'alimentaire déjà, au niveau de la culture qu'ils ont sur la bouffe, et puis c'est tout. La Corée, non, pas plus.
Moi, ça me fait penser à mes origines, puisque je viens de Corée. Ça tombe bien. Mais si je me mets dans la peau de quelqu'un d'ici, ça devrait faire penser à la K-pop, je pense. Et au drama coréen. Mais j'y connais pas grand-chose. Que j'y suis allée deux fois en Corée et que c'est des gens vraiment très, très gentils. Je recommande.
Alors cela m'évoque une dimension lointaine. Lointaine géographiquement et lointaine dans mon expérience, dans mes connaissances. Et donc ça convoque plutôt un imaginaire chez moi. Ça me fait penser à un espace avec l'océan pas loin, l'océan Pacifique que je connais pas bien, des montagnes. Je pense à des cheveux noirs, je pense à de la céramique et au raku. Je pense à l'écriture avec ces pictogrammes qui ne sont pas les mêmes caractères, qui ne sont pas les mêmes qu'ici. Et je pense à une langue que je ne parle pas et qui pourrait ressembler sans l'être à du japonais ou du chinois, qui serait quelque chose entre les deux. Je pense malheureusement aussi au dictateur qui est actuellement ça dépend si on parle de la Corée du Sud ou de la Corée du Nord, mais ça me fait penser aussi à ça, à un pays qui est divisé d'une certaine façon. Je pense aussi à des contrastes entre peut-être un monde où il y a beaucoup de modernité et aussi un monde où il y a encore des gens qui sont paysans, pêcheurs, mais qui vivent de manière beaucoup plus chichement. Et de manière peut-être moins heureuse aussi, même si ce n'est pas représentatif de la Corée, je pense aux personnes qui ont été adoptées en Corée, des personnes qui ont été adoptées de manière légitime ou de manière illégitime et de manière parfois même douteuse, dont on n'a plus la trace au niveau de l'histoire et des dossiers, et qui ont du mal à retracer leur famille ensuite, une fois qu'ils ont été adoptés. Et la dernière chose à laquelle je pense, c'est à la danse, puisque les quelques personnes coréennes que j'ai rencontrées, c'était des danseurs, et que c'était de très bons danseurs, en l'occurrence, en danse contemporaine.
Alors, culture coréenne, je dirais qu'au niveau alimentaire, culinaire, ils ont une culture par entière, mais je ne pourrais pas citer de nom. En termes d'industrie, ils ont des industries de pointe. Cinéma aussi, ils ont des bons réalisateurs. En musique, il doit avoir des styles un peu particuliers aussi, un peu typiques de chez eux. Ouais, comme ça. Après, voilà, Coréenne, il y a Corée du Nord, Corée du Sud. C'est pas, je pense, la même histoire. Même au niveau culturel, il doit y avoir des grosses différences entre le Sud et le Nord. Le Sud, il s'est un peu plus occidentalisé. On va dire, il est peut-être plus ouvert, quoi. Voilà, je pourrais dire.
Il se trouve que ma fille écoute de la K-pop. Donc voilà, c'est la première chose qui me vient. Les Blackpink, entre autres. Voilà. Après, je connais pas grand-chose de la culture coréenne.
K-pop ?
Aucune idée.
K-pop ?
Une question. Alors, juste que je vais... Si on vous dit culture coréenne, qu'est-ce que cela vous évoque ?
La bonne nourriture, bien manger, sainement et avec des super saveurs. Et puis un peu aussi quand même la K-pop.
Vous avez l'heure, non ? Je vais regarder à l'horloge justement.
La K-pop, les K-drama. Ouais, après, au niveau culinaire aussi, mais je connais pas trop.
Culture coréenne, je vous avoue que je m'y connais pas tant, mais globalement les premiers trucs qui me venaient en tête, ça va être la K-pop avec les idols et tout ce qui est série à peu près, j'ai pas tant... Je m'y connais très peu globalement, mais le premier truc qui me vient en tête sera K-pop.
Après ce petit tour d'horizon des idées que vous avez de la Corée, on plonge dans une chronique consacrée à la culture sud-coréenne. Musique, série, mode, webtoon, tradition, art, tout ce qui fait vibrer le pays aujourd'hui.
C'est un univers riche, varié et parfois même déroutant. On vous laisse découvrir ça. Maintenant, nous allons explorer la culture sud-coréenne, un univers où se mêlent innovation contemporaine et tradition ancienne. Musique, séries, mode, webtoon, rituels et art. La Corée du Sud est devenue un véritable phénomène culturel mondial.
Et ce qui est fascinant, c'est la diversité de cette culture. Quand on demande aux gens ce qu'ils connaissent de la Corée du Sud, la réponse qui revient le plus souvent, c'est la K-pop. C'est devenu un symbole du pays, un genre musical qui a conquis la planète. La K-pop, c'est de la pop sud-coréenne, mais avec une identité très particulière. Chorégraphie millimétrée, clips ultra esthétiques, production soignée et une relation très forte entre les artistes et leur public. C'est aujourd'hui l'un des produits culturels les plus exportés du pays et un élément central de la Hallyu, la vague culturelle coréenne.
Parmi les groupes les plus influents, on retrouve Stray Kids, formé en 2017, qui est mon groupe préféré. Ils se distinguent par leur énergie, leur performance très intense et le fait que plusieurs membres participent eux-mêmes à la composition et la production. Leur musique mélange rap, électro, trap et sons plus expérimentaux. Et pour illustrer leur style, on vous propose d'écouter un extrait de leur titre La 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 La, l'un de leurs morceaux les plus récents et représentatifs et un de mes morceaux préférés.
sick 어디든 흘러나오는 대로 moving show it 나직 고밤이고 낙으로 살아가지 oh shit 피해 꽃없이 부딪혀 쾅쾅 쳐대자고 정적과 부정적 에너지 타파
la 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 la
la la
De leur côté, Luna a marqué l'industrie avec un concept unique. Chaque membre a été présenté individuellement avec son propre single et son propre univers visuel avant la formation du groupe complet. Leur esthétique est très travaillée, leur chorégraphie précise et leur univers narratif complexe a beaucoup contribué à leur popularité. Et pour découvrir leur style, on vous invite à écouter Why Not, un titre emblématique de leur identité musicale.
Ou K-drama ont gagné une immense popularité internationale. Elles se distinguent par leur mise en scène soignée, leur scénario très construit et leur capacité à mélanger les genres.
Parmi les plus célèbres, impossible de ne pas citer Squid Game, qui a battu des records d'audience dans le monde entier. On peut aussi mentionner Crash Landing on You, une romance devenue culte, ou Goblin, un mélange de fantastique et de drame qui a marqué toute une génération.
La Corée du Sud est aujourd'hui un acteur majeur de la mode également. À Séoul, les jeunes mélangent minimalisme, streetwear, couleurs vives et silhouettes oversize. La mode coréenne est audacieuse, inventive et très suivie sur les réseaux sociaux.
Les Fashion Week de Séoul attirent désormais des créateurs du monde entier et de nombreuses marques coréennes gardent en visibilité internationale. La mode reflète parfaitement l'esprit du pays, moderne, dynamique et en constante évolution.
Les webtoons sont des bandes dessinées numériques conçues pour être lues en défilement vertical. C'est un format né en Corée du Sud, devenu extrêmement populaire, notamment auprès des jeunes.
Beaucoup de webtoons ont été adaptés en série ou en film comme Sweet Home, True Beauty ou Tower of God. Le webtoon est aujourd'hui un pilier de la culture numérique coréenne.
Malgré son modernisme, la Corée du Sud reste très attachée à ses traditions. Le Seolal, le nouvel an lunaire, est l'une des fêtes les plus importantes. Les familles se réunissent portant le Hanbok et rendent hommage aux ancêtres.
On peut aussi citer le Chuseok, la fête des récoltes, qui est un moment de partage et de célébration familiale. Ces traditions montrent l'importance du respect de la famille et de la mémoire dans la culture coréenne.
Pour terminer, parlons du Minhwa. Un art traditionnel coréen qui désigne des peintures populaires réalisées entre le XVIIe et le XIXe siècle. Ces œuvres étaient souvent créées par des artistes anonymes et destinées aux foyers ordinaires.
Le Minhwa se caractérise par ses couleurs vives, ses motifs symboliques, comme les tigres, les fleurs ou les oiseaux, et son style expressif. Aujourd'hui encore, cet art inspire beaucoup de nombreux artistes contemporains et reste un élément important du patrimoine visuel coréen.
Impossible de parler de culture sud-coréenne sans évoquer la cosmétique, un domaine dans lequel le pays est devenu une véritable référence internationale. La Kibochi s'est imposée grâce à des produits innovants, des textures légères et une approche centrée sur le soin plutôt que les camouflages.
Les routines coréennes, souvent composées de plusieurs étapes, ont popularisé des produits comme les BB Cream, les masques en tissu, les essences ou encore des crèmes à base d'ingrédients naturels comme le thé vert, le ginseng ou la Centella Asiatica. La K-Beauty met l'accent sur l'hydratation, la prévention et la douceur, ce qui explique son succès auprès d'un public très large.
Les marques coréennes sont aujourd'hui présentes dans le monde entier et elles influencent fortement les tendances beauté, que ce soit dans les soins, de la peau ou le maquillage. La cosmétique coréenne reflète parfaitement l'esprit du pays, recherche, innovation et attention portée au bien-être. La culture sud-coréenne est un mélange unique de modernité et de tradition qui continue de séduire le monde entier.
Qu'il s'agisse de musique, de séries, de mode, de webtoon ou d'art ancien, la Corée du Sud s'impose comme un acteur culturel incontournable.
On poursuit avec un témoignage qui nous emmène directement sur place. On a rencontré un ancien étudiant qui a vécu en Corée du Sud et il nous raconte son quotidien, ses découvertes et ce qui l'a marqué.
C'est un regard précieux, très humain qui complète parfaitement ce qu'on vient d'entendre. Bonjour, nous sommes Arthur et Célia et nous souhaiterions vous poser des questions à propos des études que vous avez réalisées en Corée dans le cadre d'une émission de la collectivité que nous allons présenter.
Pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, bonjour à tous les deux, je m'appelle Jocelyn, j'habite sur Cré. Et comme vous l'avez bien stipulé en amont, j'ai vécu une très très belle expérience en Corée, il y a de ça un petit bout de temps déjà.
Pour quelles études êtes-vous rendu en Corée ?
Par l'intermédiaire de mes études, j'ai pu faire un programme à l'international. Donc je me suis rendu en Corée du Sud pour un semestre pour faire mes études, voilà. Donc suivre des cours directement sur place dans une université coréenne.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en arrivant en Corée ?
C'est pas à l'autre bout de la planète, mais pas loin. Du coup, culturellement, en termes d'échanges, en termes de climat, de géographie, tout change. Donc moi, je savais que j'allais prendre un petit peu une claque et c'est le cas. Mais j'ai eu tout de suite un très très bon accueil de la fac, mais de l'ensemble des Coréens aussi que j'ai pu côtoyer. Donc c'est déjà le premier truc qui m'a dit « Ok, ça va être, je vais passer des mois qui seront particulièrement chouettes.
» Avez-vous dû apprendre la langue coréenne ?
Est-ce que j'ai dû ? Non, parce que mes cours étaient en anglais, mais par contre j'ai tenu à apprendre, en tout cas sur le temps qui m'était imparti. J'avais 4 heures de coréen par semaine.
Ouais. Est-ce que c'était compliqué ?
Alors le coréen c'est relativement compliqué quand on est comme moi un occidental et qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler le mandarin ou autre, mais c'est selon les dires des coréens beaucoup plus facile que le mandarin, donc non, ça allait. Et puis en fait une fois qu'on est sur place, ça paraît être un petit peu un impératif de savoir dire bonjour, merci, je ne comprends pas, demander sa direction. Donc c'était il y avait de la motivation et ça s'est fait assez rapidement parce qu'il y avait de la joie et beaucoup d'envie.
Avez-vous une activité en dehors des cours ?
Oui, en fait, on était dans un programme international. Du coup, il y avait pas mal de visites d'autres villes, de soirées, forcément, comme on s'y attend dans un échange international, qui était prévu. Et après, je faisais beaucoup de sport sur place, là-bas. Donc, j'ai aussi pas mal baroudé par ce biais-là.
Pouvez-vous nous décrire une journée type en tant qu'étudiant en Corée ?
Alors, ça dépend ce que vous entendez étudiant. Moi, je suis arrivé, c'était dans le cadre d'un master. Faut savoir que ce que les Coréens disent, et moi je les crois sur parole, les études sont extrêmement dures jusqu'à l'arrivée du bac, alors l'équivalent du baccalauréat, et du coup, ils sont extrêmement stressés. Et leur seconde vie étudiante, enfin leur vraie vie étudiante pour les Coréens, commence après le bac. Donc il y a vraiment, ils ont beaucoup moins de loisirs que nous, beaucoup moins d'accès, de temps de loisirs, de temps personnel avant le bac. Donc vraiment, on a l'impression que c'est une seconde vie qui commence à ce moment-là pour eux. Donc moi, j'ai connu que ces moments-là et c'était vraiment hyper agréable parce qu'on voit qu'ils sont très heureux de faire autre chose qu'étudier en permanence. Les cours sont très, très, pour moi, étaient très bienveillants, très sympas. Donc vraiment un univers très agréable pour étudier et apprendre.
Selon vous, quelles sont les différences entre l'enseignement français et l'enseignement coréen ?
Encore une fois, moi j'ai pas fait la primaire ou le collège ou le lycée là-bas, mais des échanges que j'ai pu avoir avec des amis coréens sur place, ils m'ont dit que c'était très dur, très chargé, et du coup statistiquement il y a beaucoup plus de retour, notamment sur le taux de dépression, etc. chez les jeunes, parce que c'est beaucoup d'apprentissage très chargé, beaucoup de par cœur très intense. Nous on est peut-être un peu moins là-dedans. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui, oui. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de votre séjour en Corée ?
Les soirées, je pense. Parce que j'avais déjà fait un Erasmus en Angleterre avant et du coup on est très vite dans un groupe d'internationaux, etc. Alors que là j'avais beaucoup plus de contacts avec des Coréens et du coup de voir que j'arrive dans un pays que je connais pas, etc. et que on puisse passer des grandes soirées où ils me montrent ce qu'ils aiment faire, etc. Ils étaient vraiment aux petits soins. Je me suis dit waouh, vraiment c'est vraiment top. Et du coup, j'ai beaucoup de souvenirs de soirées exceptionnelles en me disant, en fait, je suis à l'autre bout du monde et je suis totalement en sécurité et je suis hyper content d'être là. Donc vraiment, c'est souvenirs de soirées que j'aime beaucoup.
Enfin, j'ai une dernière question. Quel a été l'impact du décalage horaire ?
Ça, pour moi, c'est presque une question piège parce que, alors, je me souviens plus exactement. Je sais pas si c'est, enfin, il y a un gros décalage horaire entre la France et la Corée du Sud. Et moi, je pensais pouvoir m'accommoder et il s'est avéré que j'avais des cours en après-midi et en soirée. Du coup, j'avais pas cours le matin et globalement, je me suis jamais vraiment fait au décalage horaire. J'avais tendance à faire des grosses grasses maths et plutôt me coucher à 4h du matin sur l'ensemble. Donc j'avoue que je n'étais pas la bonne personne à qui poser la question.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes très heureux d'avoir pu vous parler. Passez une bonne journée.
Merci à vous deux. Au revoir.
Et maintenant, place à la gastronomie. Fermentation, plats emblématiques, street food, boissons traditionnelles, la cuisine coréenne, c'est un monde à part.
Si vous n'avez pas mangé, préparez-vous. Ça donne faim. À présent, je vous propose de découvrir la gastronomie de la Corée du Sud, un pays où l'alimentation occupe une place centrale dans la culture, l'histoire et la vie quotidienne. La cuisine coréenne se distingue par son sens de l'équilibre, son usage maîtrisé des saveurs fermentées et son attachement profond aux traditions. Pendant des siècles, la Corée a dû composer avec des hivers rigoureux et des étés très chauds. Ces conditions ont favorisé le développement de techniques de conservation, en particulier la fermentation, qui est devenue l'une des signatures de la gastronomie coréenne. Le plat le plus emblématique est le kimchi. Un mélange de légumes fermentés, souvent du chou, assaisonné de piment, d'ail et de gingembre. Il en existe plus de 200 variantes et il accompagne presque tous les repas. Le kimchi n'est pas seulement un aliment, c'est un symbole culturel inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je vais maintenant vous présenter quelques plats incontournables de la Corée du Sud. Le bibimbap. Ce plat se compose d'un bol de riz recouvert de légumes variés, parfois de viande, d'un œuf et d'une sauce pimentée appelée gochujang. L'ensemble est mélangé avant dégustation. Le bibimbap illustre parfaitement la recherche d'harmonie qui caractérise la cuisine coréenne. Le barbecue coréen, samgyeopsal. Il s'agit d'un mode de repas très convivial où la viande est grillée directement à table. Elle est ensuite dégustée dans une feuille de salade accompagnée de sauce samjang. Au-delà du goût, le barbecue coréen reflète l'importance du partage dans la culture culinaire du pays. Les tteokbokki. Ces gâteaux de riz moelleux servis dans une sauce pimentée sont l'un des plats les plus populaires de la street food coréenne. On les retrouve notamment dans les rues de Séoul, où ils sont consommés à toute heure. Le ramyeon. Les nouilles instantanées coréennes occupent une place particulière dans la culture contemporaine. Simples, rapides et économiques, elles sont devenues un véritable phénomène social, souvent représenté dans les séries et films coréens. La street food occupe une place essentielle dans la vie urbaine coréenne, dans les marchés comme Myeongdong ou Gwangjang. On découvre une grande variété de spécialités. Au taeok, des crêpes fourrées au sucre et aux noix, et au mook, des brochettes de poisson. Le poulet frit coréen, réputé pour sa texture très croustillante, et les incontournables taeokbokki, déjà évoqués précédemment. Ces marchés sont de véritables lieux de vie, où la cuisine se déguste debout, en marchant ou en discutant. Ils témoignent du dynamisme et de la modernité de la culture culinaire coréenne. Au-delà de la nourriture, on retrouve aussi des boissons propres à la Corée du Sud. Le soju, c'est l'alcool le plus consommé en Corée du Sud, transparent et relativement doux. Il est souvent partagé lors de repas entre amis ou collègues. Le makgeolli. Ce vin de riz légèrement pétillant de couleur blanche est l'une des boissons traditionnelles les plus anciennes du pays. Il est généralement servi dans des bols et accompagne très bien les plats épicés. Pour conclure, la gastronomie sud-coréenne est le reflet d'une société qui valorise à la fois tradition et innovation. Elle s'appuie sur des techniques anciennes comme la fermentation, tout en intégrant des influences modernes. C'est une cuisine qui privilégie le partage, l'équilibre et la convivialité. Découvrir la cuisine coréenne en soi, c'est finalement comprendre une partie essentielle de l'identité du pays. On continue notre voyage avec un petit détour par la langue coréenne. Le hangul, l'alphabet du pays, est unique au monde. Logique, simple à apprendre et très différent de ce qu'on connaît.
Et juste après cette petite explication, nous écouterons une courte conversation en coréen dans un restaurant, histoire de vous plonger dans les sonorités de la langue.
Pour comprendre un pays, il faut parfois commencer par écouter sa langue. Et en Corée du Sud, cette langue a une particularité fascinante. Elle s'écrit avec un alphabet unique au monde, le hangul.
Oui, le hangul, c'est un peu la star des alphabets. Il a été inventé au 15e siècle par le roi Sejong avec une idée révolutionnaire, créer un système simple, logique, que tout le monde pourrait apprendre, même sans éducation.
Et ça marche. Le hangul est tellement bien conçu qu'on dit parfois qu'on peut l'apprendre en une journée. Bon, c'est un peu optimiste, mais en quelques minutes, on peut déjà lire des syllabes.
C'est comme des petites briques qu'on assemble pour former des syllabes. C'est très visuel et très logique.
Allez, on va vous faire entendre quelques phrases très courantes. Vous pouvez même les répéter chez vous. Personne ne vous regarde.
Pour dire bonjour, on dit « Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo ». C'est la formule polie, celle qu'on utilise partout.
Pour dire merci, on dit « Gamsahamnida ». Très utile, surtout si vous mangez coréen, ce qui arrive souvent.
Oui, se dit « ne ».
Et non, se dit « annyeo ».
Ce qui surprend souvent, c'est la musicalité du coréen. C'est une langue douce, rythmée, très expressive.
Et surtout, le hangul est tellement bien pensé que les linguistes du monde entier l'admirent. Certains disent même que c'est l'un des alphabets les plus logiques jamais créés.
Bref, apprendre quelques mots, c'est déjà entrer un peu dans la culture et ça donne envie d'aller plus loin.
Alors, annyeonghaseyo, bienvenue dans la langue coréenne.
En effet, il est temps d'écouter un extrait d'une conversation en coréen afin de nous familiariser avec les sonorités de la langue.
어서 오세요.
안녕하세요.
몇 분이세요?
아, 한 명이에요.
이쪽으로 앉으세요.
아, 네, 감사합니다.
주문하시겠어요?
아, 네. 이거 하나?
아, 떡볶이 하나 드릴까요?
아, 네네. 떡볶이 하나 주세요.
네, 더 필요하신 건 없으세요?
아, 괜찮아요.
네, 갖다 드릴게요.
네, 감사합니다.
맛있게 드세요.
와, 감사합니다. 잘 먹겠습니다.
Il est temps de vous démontrer que la Corée possède aussi son lot d'éléments insolites.
Tradition, innovation, habitude étonnante, tout s'y mélange et crée une culture unique.
On a sélectionné 5 faits vraiment surprenants pour vous.
Et vous allez voir, certains sont inattendus.
Pour commencer, sachez que la Corée du Sud a fait du gaming un sport national. En effet, en Corée du Sud, les joueurs professionnels sont de véritables stars. Les compétitions d'e-sport remplissent des stades entiers et certaines chaînes de télévision diffusent des matchs 24h sur 24. Le pays a même été l'un des premiers à reconnaître officiellement les gamers comme des athlètes professionnels. Cette culture du jeu vidéo est tellement ancrée que les cybercafés, appelés PC Bang, sont des lieux de vie incontournables, ouverts toute la nuit et fréquentés par toutes les générations.
Un second fait insolite, la Corée du Sud a un service de livraison ultra efficace. En Corée du Sud, la livraison à domicile est une véritable institution. On peut se faire livrer absolument tout à n'importe quelle heure. Repas, médicaments, vêtements, outils, et même des glaçons ou un chargeur de téléphone en urgence si vous voulez. Les livreurs arrivent souvent en moins de 20 minutes, parfois même en 5 dans les grandes villes. Cette rapidité est devenue un standard au point que les Coréens trouvent lent tout ce qui dépasse une demi-heure. C'est un aperçu fascinant d'un pays obsédé par l'efficacité.
Poursuivons. Est-ce que vous saviez que le pays a inventé le Noraebang, le karaoké version coréenne? Le Noraebang littéralement la salle où l'on chante, est un incontournable de la vie coréenne. Ce ne sont pas des simples karaokés, ce sont de petites pièces privées, ouvertes 24h sur 24, où l'on peut chanter entre amis, en famille ou même seul pour décompresser. Les salles sont équipées de lumières disco, de canapés confortables et parfois même de costumes. Beaucoup de Coréens y vont après le travail pour relâcher la pression. C'est un espace de liberté totale et une fenêtre amusante sur la culture coréenne.
Quatrièmement, les cafés à thème sont une véritable institution. En Corée du Sud, on ne va pas seulement au café pour boire un latte, non, non, non. Il existe des cafés où l'on peut jouer avec des chiens, avec des chats, des moutons, des reptiles. Mais aussi des cafés Harry Potter, des cafés dédiés aux plantes, aux jeux de société, aux poupées, aux robots et même aux peluches géantes. Chaque quartier rivalise d'originalité pour attirer les visiteurs. C'est une facette étonnante de la créativité coréenne.
Et enfin, il est important que vous sachiez que le pays vit au rythme d'un examen. Le Suneung. Le Suneung, l'examen d'entrée à l'université, est tellement important que le pays entier s'adapte le jour J. Les avions sont cloués au sol pendant l'épreuve d'écoute. Les entreprises ouvrent plus tard pour éviter les embouteillages. Et la police escorte les élèves en retard, les familles, les voisins, les écoles. Tout le monde se mobilise. C'est un moment national, presque sacré, qui montre à quel point l'éducation est centrale dans la société coréenne.
On arrive maintenant à deux mini-chroniques consacrées à des aspects moins connus de la Corée du Sud. Des petites pépites qu'on avait envie de partager avec vous.
Pour ma part, je vous parle de l'île d'Odeo.
Et moi, je vous emmène au Wage Market, un marché traditionnel absolument magnifique, surtout au printemps.
L'île d'Odeo est une île pas comme les autres, puisqu'elle a servi à tourner la série coréenne New World. Le but était de plonger 6 célébrités sud-coréennes dans une utopie créée à partir de leurs propres demandes. Et c'est comme ça qu'est né Odeo. Sur cette île, on trouve beaucoup, mais beaucoup de végétation. Certains lieux les plus emblématiques sont le jardin de Vénus. Un splendide jardin à la française avec une vue imprenable sur les îles voisines. La colline aux déesses, une sculpture absolument magnifique. Son phare et enfin ses cafés. À part ça, c'est un spot touristique très prisé. Pour ceux qui se demandent, l'île d'Odeo se trouve pas loin de l'île de Gyeongju, à quelques dizaines de kilomètres de Busan.
Quant à moi, je vais vous parler du Wage Market. Le Wage Market, c'est un marché traditionnel situé dans le sud de la Corée du Sud, à la frontière entre les provinces du Jeolla et du Gyeongsang. Ce qui le rend unique, c'est son ambiance presque intemporelle. On y trouve des produits locaux, des herbes médicinales, du thé vert, du miel et des fruits de montagne, mais aussi une atmosphère qui semble sortie d'un autre temps. Ce marché est particulièrement célèbre au printemps, lorsque la route y mène, appelée la roue des cerisiers, se couvre de milliers de fleurs roses. Les habitants disent que si deux personnes marchent ensemble sous ces cerisiers en fleurs, elles tomberont amoureuses. C'est un lieu où la nature, la tradition et la poésie se rencontrent. Le Wage Market n'est pas un site touristique majeur, mais c'est justement ce qui fait son charme. Il offre un aperçu authentique de la vie coréenne, loin des grandes villes et des circuits habituels. Un endroit simple, vivant, profondément ancré dans la culture locale. J'ai choisi de vous présenter cet élément de la culture coréenne, car je le trouvais particulièrement poétique et agréable à imaginer. De plus, je trouve la légende imaginée par les habitants de la vallée adorable.
Pour terminer ce voyage en douceur, on écoute maintenant un extrait de musique traditionnelle coréenne, un moment suspendu presque hors du temps.
On vous laisse profiter de cette parenthèse musicale.
We'll be right back. conclure, on va vous présenter chacun une référence coréenne qui nous plaît et que nous tenons à vous recommander.
Personnellement, j'aimerais vous parler d'un K-drama sous forme de film appelé 20th Century Girl. C'est un film de romance coréen sous-titré en français, parlant de deux meilleures amies. L'une d'elles possède une maladie cardiaque et doit partir dans un autre pays pour des soins. Or, au dernier moment, elle refuse de partir car elle a rencontré un garçon dont elle est tombée amoureuse. Son amie lui promet alors de récolter un maximum d'informations sur le garçon, mais en échange, elle doit aller faire son opération. La jeune fille accepte et on suit l'histoire de son amie qui cherche à en apprendre toujours plus sur le fameux garçon. C'est un film émouvant et mignon sur Netflix, je vous le recommande absolument.
Pour moi, je vous conseille de regarder New World, que j'ai évoqué précédemment pour l'île d'Odéo. Cette série envoie 6 célébrités dans une utopie à partir de leurs rêves. Il y reste 6 jours et ils ont pour but d'amasser un maximum de nyang, la monnaie de l'émission, qui à la fin de celle-ci peut être échangée en won sud-coréen. C'est une série assez drôle qui est sur Netflix, je vous conseille de regarder. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers la Corée du Sud. On espère que cette émission vous a donné envie d'en découvrir encore plus.
On vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Saint-Ferréol. Pour achever cette émission, voici Jump du groupe de K-pop Blackpink. I'm not that easy to tame. You should see me in the these lights. All my tears turn to ice. That's the sweetest escape. Every time the feeling kicks in.
Blackpink in your area.